Comme les bons chefs d'entreprise, assurez la fin de carrière de vos employés sans préjudice en choisissant Sounou Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Sourire de toutes ses dents, manger à belles dents. Aujourd'hui, nous allons parler de ces gestes, de ces attentions qui peuvent contribuer à éviter les caries, les abcès ou à ces décharges irradiantes au contact d'un thé brûlant ou d'une glace. Des conseils encore pour éviter de voir ses gencives saigner à chaque brossage. Protéger ses dents, ce n'est pas simplement une parade pour éviter les douleurs quand la carie attaque le nerf. C'est essentiel pour la santé, pour se nourrir correctement en mastiquant bien. Préserver aussi le lien social, le fameux sourire et l'expression orale pour l'articulation. Nous allons donc parler dans Priorité Santé d'hygiène bucco-dentaire, de ces mauvaises habitudes aussi qui peuvent abîmer le sourire, comme manger ou boire trop sucré et bien sûr fumer. Alors qu'est-ce que l'on peut faire chez soi pour préserver la qualité des dents? À quelle fréquence doit-on consulter un dentiste? Est-ce qu'il existe d'autres solutions que la dévitalisation ou l'extraction? Nous attendons vos questions sur la page Facebook de l'émission et à notre numéro 33 84 22 75 75. La santé des dents, traiter les affections aiguës, préserver ses dents au quotidien. Avec nous, en studio, professeur Vianney Descroix, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef du service odontologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, professeur des universités en sciences biologiques à la faculté de chirurgie dentaire de Paris. Protéger les enfants des chocs dentaires, prévention et suivi. Nous serons en ligne avec le docteur Emmanuel Frère-Jouan, spécialiste en orthodontie et président de la commission communication de la Fédération française d'orthodontie. Et puis, tout à l'heure, on va rejoindre à Ouagadougou le docteur Désiré Mekabore, président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Burkina, directeur du Centre municipal de santé bucco-dentaire de Ouagadougou. Et en fin d'émission, nous serons en ligne avec le professeur Amine Benyamina, psychiatre, à la veille de l'ouverture du congrès de l'Albatros. Rendez-vous consacré à l'addictologie, qui a cette année pour thème « Les addictions, un défi pour la société, la science et la politique ».
Priorité Santé sur RFI.
Quelques petites minutes de patience, bien sûr, avant de retrouver les auditeurs de Priorité Santé pour que vous puissiez, professeur Vianney Descroix, répondre à toutes leurs questions sur cette fameuse santé bucco-dentaire. Santé qui passe, bien sûr, par la prévention, par le soin aussi quand c'est nécessaire. Alors, en dehors du brossage, on va en reparler tout à l'heure, bien sûr, est-ce que nous sommes égaux à même hygiène, à même alimentation, professeur Descroix, en termes de santé bucco-dentaire?
Alors c'est une très bonne question et effectivement nous ne sommes pas forcément égaux et si on met l'hygiène et l'alimentation à part, eh bien nous avons des différences en fonction de l'âge et en fonction des régions dans lesquelles nous habitons, mais aussi en fonction de notre patrimoine génétique. Et certaines personnes sont plus à risque de caries dentaires que d'autres.
Alors justement, ce terme de caries dentaires, il est entré dans le langage commun, on l'entend tout le temps par exemple dans les publicités pour les fameux dentifrices. De quoi il s'agit précisément en termes médicaux?
Alors en termes médicaux, la carie dentaire consiste en fait au résultat de la dégradation par les acides des bactéries dans la bouche. Il y a beaucoup de bactéries, c'est normal, nous avons besoin de bactéries dans la bouche. Certaines sont plus pathologiques que d'autres, plus pathogènes, et elles vont métaboliser les sucres pour en faire des acides, et les acides vont dégrader l'émail des dents, la dentine des dents, et former la fameuse carie dentaire.
Mais attention, il y a des caries qui sont invisibles à l'œil nu. Une carie, c'est pas forcément quelque chose de noir sur le dessus ou sur le côté de la dent.
Effectivement, il y a beaucoup de caries qui commencent en étant complètement invisibles, parce qu'elles sont dans les infractuosités des dents, et on ne peut pas les voir à l'œil nu. Et c'est bien le côté perfide de ces maladies, c'est qu'elles vont se développer lentement, et puis un beau jour, la dent va commencer à faire mal au chaud, au froid, au sucre, et là, ça doit être les premiers signes d'alerte qu'il y a un problème. Une dent ne doit pas faire mal sans raison.
Alors on disait tout à l'heure, on n'est pas tous égaux face par exemple au risque de caries dentaires. Pour autant, il y a des gestes, il y a des choses que l'on peut faire pour les éviter vraiment.
Ah oui, d'une façon générale, pour la santé de la bouche, pour la santé orale, pour les gencives comme pour les dents, la première des choses, c'est la prévention, comme vous le disiez, avec un brossage fréquent, 2 à 3 fois par jour, très régulièrement, après chaque repas, pour éliminer tous les aliments qui pourraient être sur les dents. Et ça, c'est aujourd'hui connu pour être la meilleure façon de prévenir les maladies de la bouche.
Alors tout de suite, on va retrouver en ligne le docteur Emmanuel Frère-Jouan. Bonjour docteur.
Bonjour madame, bonjour professeur Descroix.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes spécialiste en orthodontie. On parle avec vous des chocs dentaires chez l'enfant. C'est quelque chose qui peut arriver communément, on va dire, dans une cour de récréation, sur un terrain de jeu, quand on fait du sport ou même à la maison après une chute. Justement, dans quelles circonstances les plus jeunes sont-ils confrontés à ce type de traumatisme ?
En fait, on s'est rendu compte que l'âge de ce type de traumatisme est en train d'évoluer. Autrefois, on parlait essentiellement des petits-enfants à l'âge périscolaire, dans les chutes, dans l'apprentissage de la marche. Et on s'est rendu compte maintenant que à peu près 50% des enfants entre 6 et 11 ans souffrent d'un traumatisme des dents antérieures. Et plus encore, avec la modification des modes de vie, et notamment le vélo, la trottinette électrique, ce genre de choses, on a de plus en plus d'adolescents ou de jeunes adultes qui sont confrontés à ce type d'accident alors qu'autrefois ils ne l'étaient plus compte tenu de leur âge.
Alors il existe différents types de traumatismes, pour parler crûment, il y a différentes manières de se casser les dents.
Exactement, ça peut aller de la simple fêlure ou de la simple petite atteinte de la dent jusqu'à la fracture complète de la racine, voire même l'expulsion de la dent qui entraîne un espace entre les dents restantes.
Alors, pour autant, ce n'est pas parce que le choc est arrivé, l'accident est là, qu'on ne peut rien faire. Justement, du côté de la prise en charge, docteur Frère-Jouan, qu'est-ce qui est possible ?
Deux choses sont importantes à retenir. La première, c'est une urgence. Quel que soit le type d'accident, qu'il soit faible ou spectaculaire, c'est une urgence. S'il y a bien sûr un gros problème facial, il faut aller à l'hôpital. Mais s'il y a un petit problème juste au niveau des dents, il faut aller chez son dentiste et solliciter un rendez-vous en urgence. Son dentiste de famille, il faut avoir un dentiste de famille.
Pour un suivi au quotidien, et justement, en cas justement d'accident ou d'impondérable de ce type, pouvoir y aller sans tarder.
C'est ça, vous serez reçu plus facilement chez votre dentiste de famille que s'il ne vous connaît pas.
Et après l'accident, est-ce qu'il y a un suivi particulier ?
Absolument, il y a un suivi particulier à mettre en place. Il y a quelquefois des assurances à prévenir. Et pour surveiller les dents jusqu'à ce qu'il y ait des thérapeutiques définitives qui soient mises en place. Mais sinon, il faut s'assurer que la dent vit au mieux avec les conséquences de cette fracture. Parce que, il faut le rappeler, une fracture de la dent, c'est définitif. Elle ne se réparera pas spontanément. Il faudra la réparer, nous, dentistes ou orthodontistes, avec des soins dentaires.
Merci beaucoup, hein, docteur Emmanuel Frère-Jouan, pour ces explications très concrètes. Je rappelle que vous appartenez à la Fédération française d'orthodontie. Merci d'avoir été en ligne avec nous, professeur Vianney Descroix, dents fêlées, dents cassées. Est-ce qu'il y a, au-delà bien sûr du choc, du traumatisme, des facteurs qui favorisent la fragilité dentaire ?
Alors, il peut y en avoir effectivement quand l'émail des dents ou quand la dentine des dents n'a pas été finalement fabriquée au bon moment, de la bonne façon, ce qu'on appelle des défauts de développement des dents qui peuvent rendre certaines dents plus fragiles. C'est plus de l'ordre du développement des dents et de la façon dont l'enfant ou au cours de la grossesse, les dents ont pu se former.
Et maintenant, quand on parle de l'âge adulte, justement, le vieillissement, c'est un facteur qui augmente cette fragilité des dents ?
Alors, pas forcément, parce que une fois que les dents sont bien formées, qu'il y a les bonnes quantités d'émail et de dentine, les dents vont être des organes extrêmement résistants. Les gens qui grincent des dents vont les user prématurément et vont les rendre un peu plus fragiles, ça c'est certain.
Alors, on va tout de suite prendre en ligne les questions des auditeurs et des auditrices de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Le premier de ses auditeurs est en ligne du Bénin de Cotonou et c'est Corneille. Bonjour Corneille.
Bonjour Caroline.
Le professeur Descroix est à votre écoute, allez-y.
Allez, bonjour professeur.
Bonjour Corneille.
J'aimerais savoir quels sont les paramètres, c'est-à-dire les différents constituants qui peuvent nous permettre de choisir son dentifrice.
Alors c'est une très très bonne question, je vous remercie de la poser parce qu'elle est vraiment importante. On peut dire que globalement, ce qui va être vraiment important dans l'hygiène bucco-dentaire, c'est de brosser les dents. Et on pourrait presque les brosser sans dentifrice parce que l'important est d'enlever cette plaque de bactéries qui se dépose sur les dents et sur les gencives. Si après on n'a pas de maladie particulière, le meilleur des dentifrices sera celui qui va nous convenir parce qu'il a le bon goût et parce que le dentifrice a un bon goût, on aura plus facilement d'intérêt intérêt à l'utiliser. Après, le constituant vraiment essentiel, c'est le fluor. Et chez les adultes, il faut choisir un dentifrice qui contienne au moins 1450 ppm de fluor. C'est comme ça qu'on dit, qui va être le bon dosage de fluor dans le dentifrice. Si après, on veut utiliser un dentifrice dans des indications particulières, je pense par exemple à des problèmes de gencives, on aura plutôt tendance à utiliser un dentifrice qui contient un peu un antiseptique. Certaines personnes ont des sensibilités des dents et ils vont être plus à même à utiliser un dentifrice qui permet de lutter contre la sensibilité des dents. Donc le premier critère de choix, c'est de savoir pourquoi on veut utiliser un dentifrice. Si on n'a pas de maladie particulière, eh bien un dentifrice fluoré va très bien faire l'affaire. Et puis après, c'est en fonction de ce que l'on veut traiter ou prévenir avec ce dentifrice.
Alors, il y a des auditeurs, on va reprendre tout de suite Corneille en ligne, mais il y a des auditeurs qui s'interrogent sur d'autres produits, d'ailleurs, que le dentifrice pour cette hygiène dentaire. Par exemple, il y a Ghislain qui est au Congo-Brazzaville qui nous dit « Nettoyer ses dents avec du charbon noir, c'est efficace. Les dents ne perdent pas leur éclat. » Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Descroix, de cette méthode du charbon ?
Alors, je ne connais pas particulièrement cette technique du charbon noir. J'imagine que...
En tout cas, ça ne contient pas de fluor.
Ça ne contient pas de fluor et que peut-être que le contraste de couleur rend les dents un peu plus blanche, certainement. Je pense aussi que le fait de frotter les dents avec du charbon ou avec autre chose permet véritablement de les nettoyer, d'enlever les petites plaques de bactéries qui peuvent se former à la surface des dents ou des gencives.
Corneille, est-ce que vous avez une autre question concernant justement la santé des dents, peut-être en particulier aussi ces dentifrices ?
Bien sûr, j'aimerais savoir s'il y a un constituant qui est nocif pour la gencive ou bien pour nos dents.
C'est là aussi une très bonne question et je pense qu'il faut utiliser des dentifrices qui contiennent le moins de constituants possible. Encore une fois, beaucoup de dentifrices vont être des produits purement commerciaux et marketing et qu'il faut faire attention à ces dentifrices qui ont plein d'allégations différentes parce que a priori, c'est plutôt un facteur de toxicité que de bonne santé et de produits corrects. Donc j'ai tendance, moi, à proposer à mes patients, encore une fois, des dentifrices qui contiennent un constituant entre guillemets thérapeutique.
Même si c'est pas toujours facile de s'y retrouver sur les étiquettes et sur les ingrédients qui composent, sur les composants de ces fameux dentifrices.
Exactement. Je pense qu'un dentifrice qui va proposer uniquement du fluor, uniquement un antiseptique, uniquement un produit pour la sensibilité dentaire sera, à mon avis, le meilleur des dentifrices.
C'est-à-dire que ceux qui promettent blancheur, jeunesse et vigueur, vaut mieux éviter.
Ouais,
il y a trop de marketing et pas assez de santé.
Exactement. Les dentifrices blancheur, c'est pareil, là, ça va être extrêmement contestable comme allégation. Il faut se méfier de ce genre de produits.
Allez au plus simple, Corneille. Merci beaucoup pour votre question et très bonne journée à Cotonou. On part pour le Congo-Brazzaville. Brazzaville, justement, où l'on retrouve Modé. Bonjour, Modé.
Bonjour, Caroline Paré. Bonjour, Priorité Santé.
On vous écoute, allez-y.
Depuis 8 mois environ, je souffre de mal de dents et au point où je me retrouve avec une molaire partiellement cassée. Ma question est celle de savoir... Depuis un certain temps, je consomme, on m'avait conseillé des produits pour calmer la douleur. J'ai pris pêle-mêle, mélonard, dicopar, anaflam, et tout ça ne me soulageait pas. Au point où je me suis mis à prendre, et c'est là où ça m'inquiète un peu, des produits qui relèvent pas de la pharmacie, mais des produits un peu contrefaits, qui croient, portent. Et ma question est celle de savoir, est-ce que la prise de ces médicaments peut-elle avoir des inconvénients sur ma santé bucco-dentaire à la longue ?
Alors, il y a plusieurs questions, mais moi, il y a déjà une question que je vais vous poser en tant que Caroline Paré de Priorité Santé. Vous nous dites que vous avez mal aux dents, si j'ai bien compris. Vous n'êtes pas allé chez le dentiste ?
Et non, je ne suis pas allé chez un dentiste,
pourquoi ?
Malheureusement.
Pourquoi ?
Bon, c'est peut-être question d'habitude et de peur. Et je crois que je m'en vais un peu à ce point-là quand même.
Voyez, vous posez des questions sur vos habitudes, vous avez peur un petit peu de prendre l'habitude de prendre des mauvais médicaments, mais par contre, vous avez peur d'aller chez le dentiste. Alors là, je vais donner la parole au professeur Vianney Descroix, je pense qu'il va vous donner le meilleur conseil du monde.
Oui, mais bonjour Modé. Je crois que Quand on a mal aux dents et que la douleur ne passe pas, si elle ne passe pas, et ça je crois que c'est important pour tous nos auditeurs, une douleur dentaire, encore une fois, une dent n'a pas de raison de faire mal sans raison. Et donc il faut véritablement consulter. Alors on peut attendre 48 heures, 72 heures avec un antalgique classique. Après, il faut vraiment s'inquiéter de trouver un chirurgien dentiste, parce que si cette dent est cassée, c'est sans doute qu'il y avait une carie dessous et que si elle fait mal depuis 8 mois, vraiment il faut agir rapidement. Et là, il y aura qu'un chirurgien dentiste pour soigner cette dent. A priori, il va soigner la carie, il va la réparer. Peut-être il sera obligé de faire le traitement endodontique, de dévitaliser cette dent, mais il n'y aura pas beaucoup d'autres solutions. En tout cas, les médicaments comme ça pris pendant 8 mois, c'est vraiment pas une chose à faire. Elle peut même être particulièrement dangereuse.
Ce qu'on peut dire à Maudet, c'est que quand il va aller chez le chirurgien dentiste, on va l'anesthésier, donc il n'aura pas mal, même il ne va même plus sentir la douleur de sa dent. Et puis, peut-être avec un peu de chance, une, deux séances, et sa dent pourrait être soignée.
Oui, c'est possible. Exactement ça. On soigne aujourd'hui les dents sans douleur et avec une bonne anesthésie et avec un chirurgien dentiste qui sait faire ça correctement. En deux séances, les choses peuvent être réglées, effectivement.
Il y a bien moyen à Brazzaville, Maudet, de trouver un bon chirurgien dentiste qui vous règle ce problème de dents. Vous n'allez pas continuer comme ça de souffrir en prenant des médicaments pour, alors que le problème reste là. Qu'est-ce que vous allez faire?
Ok, donc je comprends qu'il faut aller chez le dentiste. Maintenant, j'ai une autre préoccupation sur la fréquence de brossage des dents. Est-ce qu'il y a un conseil particulier, notamment sur le nombre de fois qu'on doit brosser les dents par jour?
Alors pendant très longtemps, Maudet, on a dit qu'il fallait les brosser 3 fois par jour. Aujourd'hui, en France, les recommandations, c'est plutôt 2 fois par jour, le matin et le soir. L'important, c'est à la fois la fréquence, et encore une fois, je pense que au minimum 2 fois par jour, après les repas, et c'est surtout de prendre le temps de bien brosser toutes les dents et toutes les parties de la bouche. Ça, c'est vraiment absolument essentiel. C'est-à-dire qu'on considère qu'un brossage chez un adulte, c'est au moins 3 à 4 minutes de brossage en passant sur toutes les dents, et sans oublier les dents les plus loin dans la bouche.
Chanter une chanson dans sa tête, quand on a terminé la chanson, en général, c'est la bonne durée. On vous souhaite une très bonne journée à Brazzaville, Maudet. On part pour le Cameroun, on part pour Yaoundé, où l'on retrouve Toby. Bonjour Toby.
Bonjour. Non.
On vous écoute, allez-y.
Ok. Donc, je disais, j'ai mon petit frère qui a une joue, en fait, depuis 4 jours déjà aujourd'hui.
Mm-hmm.
Et il a été chez le dentiste. On a occulté, mais il n'a pas de dents perforées, mais la joue est enflée. Alors, on lui a donné des antibiotiques, mais ça ne résout pas son problème. Donc, j'aimerais savoir quelle peut être la cause de cela.
Vous êtes allé voir le dentiste? Est-ce que vous êtes allé voir un médecin ou juste un dentiste?
Un dentiste.
Et une fois que justement le dentiste a donné ses antibiotiques et a dit que la dent n'était pas en cause, il vous a dit de rester combien de temps comme ça avec ce traitement en attendant?
Le traitement, c'est pour une semaine.
Une semaine d'antibiotiques, professeur Vianney Descroix.
Oui, bonjour Toby. Je pense qu'une joue peut être enflée pour plein de raisons différentes et effectivement, c'est pas forcément les dents qui sont en cause, c'est pas forcément non plus une infection bactérienne, ce qui expliquerait pourquoi les antibiotiques ne sont pas forcément efficaces. Je pense que ça demande d'avoir plus d'investigation et que on ne laisse pas un petit garçon de 12 ans avec une joue qui enfle sans vraiment de diagnostic, parce que ça peut être encore une fois beaucoup de choses très différentes. Si c'était bactérien et que l'antibiotique était bien choisi, il faudrait effectivement attendre 72 heures déjà pour voir si c'est ça. Mais à mon avis, il faudrait surtout avoir l'origine de ce gonflement, qui n'est pas encore une fois forcément une maladie des dents, qui peut être plein d'autres choses.
Toby, il prend les antibiotiques depuis combien de temps, votre petit frère?
À la maison, il prenait juste pour se soulager, mais là, on était chez le dentiste avant-hier.
Avant-hier, donc ça fait 48 heures, et vous avez les moyens d'aller voir un médecin généraliste, justement, pour qu'il y ait une autre consultation, pour qu'on essaye de trouver la véritable origine de cette joue qui a enflé?
Pour le moment, les moyens ne sont pas disponibles, mais si c'est ça la solution, on opte pour ça.
Je crois qu'il faut surtout pas rester sur un problème purement de dents et qu'il faut faire d'autres investigations pour comprendre pourquoi cette joue est enflée. Ça, c'est vraiment très important.
Il faut rechercher la cause, surtout si c'est douloureux. Il a mal, c'est ça? Il se plaint de sa joue?
Il a mal. et il se plaint, il a mal et il crie de douleur.
Il crie de douleur, ça l'empêche de dormir, donc vraiment il faut l'emmener voir un médecin pour au moins le soulager et certainement le soigner, c'est très important.
Ok.
Voilà, on vous souhaite une bonne journée, bon courage à votre petit frère hein, Yaoundé au Cameroun. On part pour le, on retourne à Brazzaville au Congo où l'on retrouve Bertrand. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
On vous écoute Bertrand.
Oui, j'ai été consulté pour un problème de mauvaise haleine. Et au final, on a découvert que c'était plutôt au niveau des dents qu'il y avait un problème. C'est-à-dire qu'il y avait une accumulation d'aliments qui pourrissaient dans les dents et qui causaient la mauvaise haleine. Donc, je suis allé voir un dentiste qui m'a fait un nettoyage à l'ultrason. Et pendant qu'il me faisait le nettoyage, il m'a fait comprendre que j'avais de très belles dents. Et je me suis rappelé qu'en fait, c'est pas le premier dentiste qui me fait cette remarque. C'est vrai que je n'ai jamais été consulté pour des problèmes de dents. Mais bon, au cours des rencontres, des discussions avec les amis dentistes, deux ou trois m'avaient déjà fait remarquer auparavant que j'avais de très belles dents. Et je crois qu'ils m'avaient dit que j'avais des dents bien chaussées ou quelque chose dans ce sens-là.
Donc, c'était pas au niveau de l'implantation de vos dents, mais vous aviez par contre des résidus dans la dentition. Comment ça se fait, Bertrand, vous brossez les dents régulièrement?
Oui, oui.
Comment se fait-il, justement, professeur Vianney-Descroix, qu'on puisse avoir ce type de problème alors qu'on va dire on suit les bons conseils des dentistes, on se brosse les dents régulièrement?
Si j'ai bien compris, la problématique de Bertrand, c'est que ça se situe au niveau des dents de sagesse. Et les dents de sagesse, soit elles ne poussent pas, soit elles poussent bien, soit quand elles poussent un peu de travers. Et il peut être très difficile d'aller nettoyer très correctement ces dents de sagesse parce qu'elles sont très loin dans la bouche. Et puis, encore une fois, leur mauvaise position fait que ça va faire des réserve d'aliments, et c'est une des raisons de la mauvaise haleine, par exemple. C'est, encore une fois, ces aliments qui vont stagner dans la bouche et qui vont donner cette mauvaise haleine. Alors, par rapport à l'extraction de ces dents de sagesse, soit les chirurgiens dentistes considèrent qu'elles peuvent faire leur éruption correctement et ne pas entraver la santé de la bouche, et auquel cas on les laisse. S'il y a le moindre doute sur le fait que ces dents peuvent être des facteurs de rétention alimentaire, de complications infectieuses ou inflammatoires, je crois qu'il ne faut pas trop hésiter et il faut faire enlever ses dents de sagesse.
Bertrand, vous avez des appréhensions pour vous faire arracher les dents de sagesse?
Oui, parce que justement, ce médecin-là, à la fin, il m'avait justement dit que j'avais une maladie
parodontale.
Parodontale. Mmh. Voilà. Et ensuite, il m'avait proposé de pouvoir enlever les dents de sagesse. Et donc, il m'avait demandé d'aller réfléchir. Et justement, comme a dit le docteur, j'ai quelques appréhensions. Je me demandais si c'était pas simplement pour lui une stratégie pour avoir
un intérêt économique à le faire.
Mmh. Voilà. Mmh. Bon, si bien que je suis dans le doute entre l'idée de continuer à les faire nettoyer régulièrement par ultrason, disons tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ou encore d'accepter justement de se faire extraire les dents avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir.
Bertrand, énormément de gens se font retirer ces dents de sagesse, y compris ici en France, de très nombreux adolescents, et c'est quelque chose qui se fait, on a les dents, les joues un peu gonflées quelques jours, on met des poches de glace, on a une alimentation qui change, mais finalement, vous n'allez pas me contredire, professeur Descroix, c'est quelque chose qui se fait tout à fait de façon classique.
C'est une intervention très classique, et encore une fois, que l'on ne fait pas à la légère, c'est-à-dire que s'il y a véritablement l'indication de les extraire, parce que on sait que les problèmes vont être récurrents. Alors Bertrand peut effectivement bénéficier d'un détartrage très régulièrement avec un chirurgien dentiste, mais je pense que tant que ses dents seront dans cette position-là et qu'elles seront là, il sera embêté. Le problème n'est pas réglé et que, comme vous dites très bien Caroline, en France, c'est vraiment une pratique qui est très courante. Et je rassure Bertrand, c'est pas avec ça que les chirurgiens dentistes gagnent leur vie. L'extraction des dents de sagesse n'est pas très rentable d'un point de vue économique. Donc il y a vraiment cette question de savoir si Effectivement, il préfère les garder et on ne pourra pas lui enlever sans qu'il le veuille. Mais je crois que ça semble être plus raisonnable de les faire extraire. Et encore une fois, comme vous dites, les suites post-opératoires sont vraiment simples avec les dents de sagesse.
C'est l'affaire de quelques jours.
C'est l'affaire de 3 jours où on est effectivement un petit peu enflé, un petit peu douloureux, mais avec des bons antalgiques. A priori, tout rentre dans l'ordre très vite.
Voilà pour ces conseils, Bertrand. On vous souhaite une bonne journée à Brazzaville. On part pour le Burkina, Ouagadougou. On retrouve Sonia. Bonjour Sonia.
Bonjour.
On vous écoute Sonia.
Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour professeur.
Bonjour Sonia.
Allez-y.
Voilà, j'appelais à propos d'un problème que mon enfant a eu il y a une année de cela. Mmh. En fait, il avait 2 ans. Il a eu une infection à l'intérieur de la bouche. Il avait des plaies et tout ça. On a eu à faire la consultation. On a nettoyé la bouche. Mais après guérison, on remarque que le jour qu'il ne se brosse pas, il a une mauvaise haleine en fait.
Et il a quel âge?
Et le matin, au réveil seulement, on sent que la laine se dégage déjà. Est-ce normal pour un enfant de 3 ans? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, la question que pose Sonia, elle est vraiment très intéressante parce que il y a beaucoup de parents qui vont se rendre compte que leurs enfants au réveil ont pas une très bonne haleine. Et d'ailleurs, nous-mêmes, quand on se réveille, je pense pas qu'on ait toujours une très bonne haleine. Donc, l'haleine du réveil, elle est plus due finalement au fait qu'on salive moins pendant la nuit, que la bouche, certains enfants respirent que par la bouche, notamment à 3 ans, ce qui assèche encore plus la bouche et qui va lui donner vraiment une odeur tout à fait particulière. Les enfants qui sucent leur pouce vont là aussi avoir une haleine un peu particulière. Je crois que il n'y a pas d'inquiétude à avoir si c'est véritablement l'haleine du réveil, hein, qui est vraiment due à une modification de la physiologie de la bouche pendant la nuit. Il faut plus s'interroger quand c'est une mauvaise haleine qui persiste toute la journée. Mais chez un enfant comme chez un adulte, au réveil, c'est tout à fait logique d'avoir mauvaise haleine.
Vous avez déjà initié votre fils au brossage, Sonia ?
Si, si, nous le brossons chaque matin.
Mm-hmm.
Voilà, mais le jour qu'on ne le brosse pas, dès 9h, on commence à voir que vraiment la laine est très forte et tout ça. Bon, je me suis dit que c'est un truc qu'on devait sentir chez les grandes personnes, mais pas chez les enfants, quoi.
Si, si, ça arrive aussi. C'est voilà. Même très fréquent chez les enfants. Que...
Et c'est résolu une fois que c'est son brossage est effectué. Après, il a une bonne haleine, voilà. Il part avec son joli sourire.
Voilà, dès que le brossage est fait, il n'y a pas de problème. Mais le fait que le brossage n'est pas fait, bon, c'est pas facile.
Donc, ce que dit le professeur Descroix, c'est que vous pouvez être rassuré. Hein. C'est certainement lié à ce qu'il fait pendant son sommeil. Il dort un petit peu avec la bouche ouverte, peut-être avec un petit filet de bave sur le coin de la lèvre. C'est pas très grave, c'est très mignon de toute façon. Très, très bonne journée, Sonia, à Ouagadougou. On part pour le Cameroun, pour Yaoundé, où l'on retrouve Franck Boris. Franck Boris, bonjour.
Bonjour, Caroline.
On vous écoute.
Alors, bonjour, professeur.
Bonjour, Franck Boris.
Alors, ça va bientôt faire 1 an et demi que je n'arrive plus à consommer normalement les fruits que j'aime bien. À chaque fois que je consomme un fruit, j'ai un problème de sensibilité dentaire, en fait. Voilà, du grincement des dents, exactement. Et donc, même pour manger des nourritures par moment solides, je suis obligé d'aller doucement parce que si je force sur la dent, je ressens ces grincements des dents-là. Donc, ça m'amène à poser 2 questions.
Allez-y.
La première, celle de savoir qu'est-ce qui peut être la cause des sensibilités dentaires, problème de sensibilité dentaire. Et la seconde, celle de savoir, y a-t-il un traitement? Si oui, lequel?
Est-ce que c'est sur toutes vos dents ou c'est sur certaines dents en particulier?
Sur certaines dents en particulier.
Certaines dents qui sont bien localisées à certains endroits, toujours les mêmes?
Exactement, madame.
Professeur Vianney-Descroix?
Alors, y a beaucoup de Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les dents peuvent être sensibles. Avec le vieillissement des gencives, les gencives peuvent s'affaisser un petit peu et puis on a une partie de la racine qui est découverte. Certaines personnes qui vont grincer très fort des dents la nuit ou le jour vont faire que les dents vont s'user un peu plus vite, on en parlait tout à l'heure, et elles vont rendre les dents très sensibles. Donc cette sensibilité des dents, c'est un problème qui est vraiment très fréquent et très classique, qui est soit une gencive qui se rétracte un peu trop et qui va dénuder la racine des dents et qui deviennent très sensibles. Le grincement des dents va aussi fragiliser ces dents avec une barrière d'émail et de dentine qui ne sera plus suffisante. Et donc là, il faut vraiment voir un chirurgien dentiste pour qu'il fasse le diagnostic. En fonction du diagnostic, il y a un certain nombre de choses à faire. On peut utiliser, on le disait tout à l'heure, un dentifrice qui va permettre de protéger la surface des dents. Les chirurgiens dentistes peuvent mettre un vernis sur les dents. Et puis parfois, on est même amené à faire des greffes de gencives pour protéger la racine des dents, pour qu'elle soit beaucoup moins sensible, parce que c'est extrêmement douloureux et puis ça empêche une alimentation correcte.
Donc déjà, la priorité, c'est établir le diagnostic.
Il faut établir le diagnostic et après, en fonction du diagnostic, il y a plein de solutions possibles. Hein. Ce n'est pas une fatalité, la sensibilité dentaire. On peut véritablement en guérir.
Voilà, Franck Boris, on vous souhaite une bonne journée à Yaoundé. On part pour la Côte d'Ivoire, Abidjan, où l'on retrouve Kimou. Bonjour Kimou.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, allez-y, le professeur Descroix est à l'écoute.
Bonjour professeur, moi je suis athlète professionnel et c'est arrivé que quand j'étais plus jeune, je me suis fait arracher les dents, j'avais mal à la dent et quand je suis parti chez le dentiste, il avait mal arraché, il avait juste scié. Il n'a pas arraché, il a scié la dent, donc j'ai eu mal une semaine. Quand je suis parti dans un hôpital, on a dit que la dent n'était pas arrachée, qu'elle était sciée. Donc ils l'ont arraché, donc je me suis fait arracher, je crois, 4 dents en 2 ou 3 jours, et puis après je me suis fait plomber d'autres. Donc depuis lors, j'ai très mal à la dent, alors que je dois m'entraîner, je dois faire du sport, donc des fois ça me fait super mal. Donc j'ai encore peur, parce que je ne peux pas repartir dans un autre centre pour aller faire arracher, parce que j'ai peur de la première expérience.
Ça remonte, excusez-moi Kimou, mais ça remonte à quand ça? Ces interventions?
Ça remonte, je crois, à 7 ans ou 8 ans de cela.
7 ou 8 ans et vous avez cette douleur depuis, non-stop?
Oui, j'ai très mal, je prends juste des médicaments. Et en plus, juste après ça, et là, quand je me suis rendu chez l'ophtalmologue, on m'a dit que la première dent n'était pas bien arrachée, donc je suis devenu myope d'un œil. Donc je vois pas très bien, je prends des lunettes nettement. Et même quand je suis à 150 mètres, je vois pas trop mon coach. Mais la dent, je sens ma dent de sagesse, je sens des dents qui me font mal quand je passe chez le dentiste. Et on me dit, soit je fais arracher, soit je fais traiter. Bon, j'aime qu'on peut, parce que comme la première opération n'a pas été bien, je sais pas s'il faut repartir pour la deuxième, alors qu'avec le sport, les dents, ça compte. Donc je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire.
Vous dites vous prenez des médicaments depuis. Vous prenez quoi comme médicaments depuis pour cette douleur?
Des antibiotiques, c'est des Gébédol.
Mais vous prenez pas des antibiotiques depuis 8 ans?
Non, je lui ai dit que j'ai soit des bains de bouche, soit des antibiotiques. Je prends Gébédol, des antibiotiques juste pour calmer. Mais je peux pas serrer les dents parce qu'au sport, il faut juste serrer les dents pour courir des fois ou des trucs, mais je peux pas vraiment.
Professeur Vianney Descroix, 8 ans à souffrir comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire à Kimou?
Alors la problématique de Kimou, elle est complexe, hein, parce que très clairement, quand on a mal dans la bouche depuis 8 ans, c'est que ce n'est plus ni une carie, ni un problème dentaire, et c'est très soulevant. Et dans l'histoire de Kimou, on peut retrouver des éléments qui vont en faveur de ça, c'est-à-dire que le fait d'avoir mal extrait, on dit plus arracher les dents, hein, on dit qu'on les extrait parce que c'est moins violent, et le fait que la première extraction se soit mal passé, a peut-être pu déclencher une névralgie qui est liée à la chirurgie, en fait, où cette dent mal extraite la première fois et qui a nécessité une autre chirurgie. Et j'entends que dans l'histoire de Kimou, il y a eu beaucoup d'extractions et beaucoup de soins dentaires. Tout ça a pu déclencher des névralgies qui ne se soigneront pas avec des antibiotiques ou avec des antalgiques classiques, mais qui sont du domaine vraiment pratiquement de la neurologie pour essayer de limiter ces sensations extrêmement douloureuses. Donc moi j'inviterais volontiers Kimou à voir plutôt un médecin spécialisé dans les névralgies faciales, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'il décrit.
Ça veut dire un neurologue dans un service de neurologie.
Plutôt un neurologue, oui, tout à fait.
Aller à l'hôpital à Abidjan, il y a des services qui ont ces spécialistes qu'on peut voir. Le lien que fait Kimou entre ces problèmes de vue et ces problèmes de dents, c'est quoi?
Alors, c'est aussi une question assez récurrente. Il n'y a pas de lien factuel entre les yeux et les dents. Comme ça, a priori, il faut chercher d'autres causes que les dents quand on a des problèmes ophtalmologiques, parce que le lien n'a jamais vraiment été établi. Ça peut être deux choses complètement indépendantes.
Mais qui peuvent arriver en même temps par le hasard de la vie.
Exactement.
Voilà Kimou pour ses réponses. Hein. Donc on a bien compris, il faut que vous soyez prise en charge, parce que votre douleur au long cours comme ça, c'est quelque chose qui est insupportable d'après ce que vous décrivez, d'après ce que nous avez justement bien raconté dans votre témoignage. On vous remercie beaucoup et bonne journée à Abidjan. On va prendre un dernier auditeur, c'est Vincent qui est au Cameroun, à Yaoundé. Bonjour Vincent.
Bonjour.
On vous écoute Vincent, allez-y.
Oui, je vous appelle parce que j'ai un petit-fils qui a 6 ans aujourd'hui. À l'âge de 2 ans, il a fait une chute à la maison et les deux dents je crois que c'est les canines supérieures, sont rentrées profondément dans la chair. Elles étaient à peine visibles. Alors, je l'amène chez le dentiste. Le dentiste a dit la solution, c'est de les enlever. Alors, les deux dents ont été enlevées. Et aujourd'hui, il y a d'autres dents de lait qui sont tombées, qui ont repoussé. Mais là, j'ai l'impression que l'endroit est complètement cicatrisé. Je me demande si ces deux dents vont encore pousser.
La repousse des dents après le traumatisme, hein, c'est cette question de Vincent à Yaoundé. Aujourd'hui, son petit-fils a 6 ans. Il s'inquiète de voir un petit peu son sourire privé de ses petites dents.
Bonjour Vincent. Alors, la question là, elle est relativement simple. Quand on a, et on en parlait tout à l'heure, des traumatismes sur les dents de lait, certains de ces traumatismes peuvent repousser les dents temporaires à l'intérieur de la mâchoire. Et effectivement, très souvent, soit on attend qu'elles repoussent, comme si elles pouvaient pousser une deuxième fois, soit on les extrait. Et puis maintenant, à 6 ans, eh bien, c'est les dents définitives qui vont faire leur éruption. Donc, si on ne voit rien dans la bouche de ce petit garçon, c'est a priori normal.
Parce qu'un enfant de cet âge-là qui n'aurait pas eu de traumatisme sur les dents, bah à l'âge de 6, 8, jusqu'à 10 ans, il peut être édenté devant,
oui,
c'est normal.
Enfin, peut-être pas jusqu'à 10 ans, mais en tout cas à 6 ans.
En dessous de 10.
En dessous de 10. Il y a plein de trous dans la bouche des enfants parce que les dents temporaires, les dents de lait tombent et les dents permanentes n'ont pas encore fait leur éruption. Donc à cet âge-là, à 6 ans, c'est normal de voir que les enfants n'ont pas toutes leurs dents, elles vont pousser.
Si Vincent se pose cette question dans 4 ans, là, il pourra vraiment aller consulter.
Oui,
il
faut consulter parce que il peut y avoir eu un traumatisme sur les dents, vous voyez, sur le germe des dents définitives qui fait qu'elles ont du mal à pousser. Et là, il n'y a qu'un examen clinique d'un chirurgien dentiste et un examen radiologique qui pourra le dire. Aujourd'hui, je ne suis pas très inquiet.
Aujourd'hui, c'est trop tôt, en tout cas.
Un petit garçon de 6 ans qui manque des dents, ça paraît assez logique.
Voilà, Vincent. Voilà pour cette réponse. Vous avez autre chose à demander au professeur Descroix?
Non, ça va. Non, je comprends qu'il faut juste attendre.
Exactement. Pour l'instant, le meilleur conseil, c'est d'attendre. On vous remercie beaucoup. Hein, très bonne journée au Cameroun. On a bien entendu hein, à travers les questions des auditeurs, et c'est une question récurrente quand on parle de ces dents, c'est cette fameuse douleur. La douleur, à la fois un symptôme, et puis il y a aussi la crainte de la douleur pendant le soin. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs à ce sujet?
Alors d'abord, par la crainte ou l'anxiété ou la peur que peuvent avoir un certain nombre de personnes vis-à-vis de ces soins, elle est tout à fait légitime, elle est logique. C'est pas du tout confortable ou ça ne l'a pas été de se faire soigner les dents et qu'il y a véritablement une normalité presque de ne pas être à l'aise chez le chirurgien dentiste. Aujourd'hui, là où il faut arriver à se rassurer, c'est que les soins sont indolores, que les anesthésies sont efficaces, que les traitements sont très rapides et que finalement, il faut vivre cette expérience d'un soin presque confortable pour se rendre compte que ce n'est pas si effrayant que ça de se faire soigner les dents et qu'en tout cas, d'attendre ou d'éviter d'aller chez un chirurgien dentiste va aggraver des situations qui vont, elles, là, du coup, devenir peut-être très douloureuse et sans doute très anxiogène. Et donc, la meilleure façon de faire, c'est de prendre un petit peu sur soi, d'avoir un petit peu de courage au début, parce que plus souvent on voit son chirurgien dentiste, moins on aura de problèmes au niveau des dents et au niveau de la bouche, et plus ça sera confortable d'aller se faire soigner.
On va partir tout de suite pour le Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Désiré Mekabore, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre municipal de santé bucco-dentaire de Ouagadougou, président aussi de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Burkina. Alors précisément, combien de dentistes au Burkina, docteur Kabore?
Oui, alors permettez-moi, Caroline, de commencer par saluer le professeur Ducroix qui m'a enseigné quand j'étais donc étudiant à Paris 7. Lorsque je passais mon certificat d'études supérieures de l'odontologie chirurgie. Bonjour, professeur.
Bonjour, merci.
Voilà, je vous traduis toute ma reconnaissance parce que, nous avons beaucoup appris de vous. Alors, au Burkina, pour répondre à votre question, nous sommes 91 chirurgiens dentistes inscrits au tableau de l'ordre.
Est-ce que ça veut dire, docteur Kabore, que quand quelqu'un au Burkina a mal aux dents, hein, pour être très simple, il y a un dentiste à côté de chez lui ou c'est encore quelque chose de très compliqué?
Oui, il faut dire que c'est encore quelque chose de très compliqué parce que le Burkina Faso compte 19 millions d'habitants. Et si vous prenez 19 millions d'habitants pour 91 chirurgiens dentistes, le ratio est vite calculé.
On a vite compris.
Vous avez à peu près un chirurgien dentiste pour 300 000 habitants.
Et on imagine ces conditions, les patients consultent plutôt tardivement parce que justement, c'est pas entré dans les mœurs vu qu'il n'y a pas suffisamment de praticiens.
C'est ça. Déjà, il y a certainement déjà tout ce qui va être la culture du chirurgien dentiste qui n'existe pas. Et à cela s'ajoute le nombre insuffisant de chirurgiens dentistes, ce qui fait que dès lors qu'il y a un problème dentaire, la consultation va être tardive. Elle va l'être non pas seulement parce que le patient ne s'oriente pas vers le centre de santé, mais aussi parce qu'il y a d'abord cette attitude qui est donc de se rendre en consultation de médecine traditionnelle, de commencer par la proximité du lieu d'habitation et le motif de consultation lorsque plus rien ne va et qu'il y a les complications, qui sont des complications le plus souvent liées à une carie dentaire que l'on aurait pu intercepter. C'est en ce moment que nous recevons donc les patients au stade donc de complications.
Alors justement, du côté des soins, qu'est-ce que vous proposez, docteur Désiré Mécaboron? On l'a compris, hein, vous avez fait vos armes avec le professeur Vianney Descroix qui vous a donné donc cet enseignement, on va dire, de l'odontologie classique, dévitalisation et du côté des prothèses, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est accessible?
Non, il faut le dire, ce n'est pas du tout accessible. Au Burkina Faso, pour l'instant, il n'y a pas de couverture maladie universelle, il n'y a pas d'assurance maladie universelle, si bien que, pour l'instant, les populations sont obligées de payer, de débourser de leur poche pour les soins. Ce qui existe, c'est une couverture qui va assurer donc la santé de la mère et de l'enfant, mais pour l'instant, ce qui concerne les soins dentaires et bien d'autres soins de médecine générale, ces soins ne sont pas encore couverts. Du coup, les patients qui vont venir lorsque vous décidez de dévitaliser une dent qui est délabrée et que vous décidez de la conserver, si la dent a perdu, j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure qui disait qu'il avait une dent cassée, lorsque la couronne est très détruite, il va falloir renforcer cette couronne dentaire en y mettant, en y posant, parfois, lorsque l'indication est là, une couronne artificielle. Mais cela coûte tellement cher. Que finalement, la solution qui va être choisie, c'est d'enlever la dent, c'est d'extraire la dent. Si vous vous mettez à extraire les dents, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons nous retrouver avec une population édentée. Et aller donc vers des réhabilitations prothétiques, c'est également cher. Et donc, au niveau de l'ordre, nous plaidons au niveau du ministère de la Santé pour que le ministère nous entende et mette en œuvre véritablement un plan de développement de la santé bucco-dentaire en intégrant cette santé bucco-dentaire aux problèmes de santé générale. Et nous disons par exemple, lorsqu'il s'agit de lutter contre le paludisme, il y a des distributions de moustiquaires impayés. Nous aurions souhaité qu'en distribuant des moustiquaires impayés, on distribue des kits d'hygiène bucco-dentaire aux familles, parce qu'on passe de famille en famille pour distribuer ces moustiquaires. C'est vrai que le paludisme est une maladie qui tue beaucoup dans notre contexte, mais ce n'est pas non plus une raison pour oublier la santé bucco-dentaire. Il faut que des dispositions soient prises pour que ces patients puissent être vus au bon moment.
Et notamment en termes de prévention, on l'a bien compris. Merci infiniment, docteur Désiré Mécaboré. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre municipal de santé bucco-dentaire de Ouagadougou.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Ce sera le mot de la fin, professeur Vianney Descroix. Quand on a mal aux dents, la bonne solution, ce n'est pas de prendre un cachet.
Et non, c'est d'aller voir son chirurgien dentiste.
Tout simplement.
Tout simplement.
Ce qui est dit est dit. Merci beaucoup, professeur Vianney Descroix. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Même si un cachet, quand on a mal, ça peut aussi faire du bien. Mais on va aussi voir le dentiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef du service d'odontologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Priorité santé sur RFI.
13e congrès international de l'Albatros addictologie à Paris jusqu'à vendredi au Palais Brongniart, c'est l'ancienne bourse de Paris. En ligne avec nous, professeur Amine Benyamina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du département de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Un rendez-vous donc qui commence demain pour aborder toute une série de thématiques en relation avec l'addiction, avec y compris des problématiques nouvelles. Vous allez parler notamment des addictions sans substance, par exemple, sans alcool ou sans drogue.
Oui, évidemment, ce sont des addictions qui semblent être nouvelles parce que elles sont en train de gagner leur lettre de noblesse, entre guillemets, à travers les classifications internationales, mais sur le terrain, et les cliniciens connaissent et traitent depuis quelques années déjà hein, ces problématiques. Donc,
addiction aux jeux, addiction aux écrans, donc reconnue par l'OMS.
Tout à fait, récemment, puisque la semaine passée, on a eu la reconnaissance au niveau de la classification de l'OMS des addictions aux jeux vidéo, qui constituent quand même une avancée de reconnaissance des personnes en souffrance et la possibilité d'échanger sur des critères établis, à la fois pour les cliniciens et les chercheurs, et en même temps, une source d'inspiration, nous l'espérons, pour les législateurs, notamment un certain nombre de jeux mis en ligne ou non, pour pouvoir essayer de reconnaître le caractère sciemment addictif. Hein, voilà, donc c'est un outil intéressant.
Autre thème au cœur de l'actualité, justement, professeur Amine Benyamina, c'est l'usage détourné des médicaments. On parle sans arrêt justement des antalgiques et tous les problèmes justement associés à ces addictions.
La seconde année où on aborde cette question, qui est une question au cœur de l'épidémiologie mondiale, puisque l'année passée on avait invité Nora Volkoff, qui est la présidente du NIDA, c'est l'agence américaine en charge des questions d'addiction, qui était venue nous alerter sur la crise des opiacés, qui au départ était confinée dans un milieu spécialisé, qui actuellement fait l'objet d'une vraie publicité et pour cause auprès du grand public, parce que c'est le grand public qui en est victime, non, évidemment, avec des morts tous les jours, beaucoup de morts aux États-Unis et au Canada, l'Amérique du Nord est sinistrée à travers cette histoire des opiacés et la manière avec laquelle on s'est retrouvé à avoir des médicaments 10, 20, voire 50 fois plus importants que ceux qui nous paraissent être des drogues importantes, comme l'héroïne ou la codéine. Donc voilà, on reprend le sujet parce que, évidemment, ce qu'on pensait être confiné dans le nord des États-Unis, de l'Amérique, arrive, évidemment, avec des proportions bien moins importantes, mais pour pouvoir alerter, donner des éléments de comparaison et peut-être mettre en place un filet de sécurité et des éléments de prévention et des éléments de bonne pratique et de bon sens.
Et on l'a souligné aussi dans Priorité Santé, hein, par exemple avec le tramadol en Afrique de l'Ouest qui fait de plus en plus de ravages, notamment parmi les plus jeunes. Un congrès qui permet aussi d'aborder, on va dire, des questions médicales, on va dire plus classiques, par exemple maladies hépatiques liées à l'alcool.
C'est une classique. Importante également, tout l'enjeu de la greffe, l'enjeu des environnements qui sont susceptibles de provoquer des maladies graves, et qui convoquent des spécialités convergentes comme les pathologies, la chirurgie et l'addictologie. Et donc ça nous semble utile et important d'en parler. À un moment où la ministre a récemment, à travers le communiqué et le décret même, publié l'élargissement, par exemple, de la prise en charge de l'hépatite C par des médecins en ville. Tout ça constitue pour nous l'ADN du congrès, c'est-à-dire des spécialistes dans l'année qui s'est écoulée dans leur domaine, qui s'expriment souvent en anglais pour des raisons pratiques, traduits, et qui viennent exprimer un peu leur savoir et leur connaissance auprès d'un public chamarré, en grande partie fait de cliniciens qui n'ont plus les possibilités de voyager. Voilà, ça c'est l'esprit du congrès de l'Albatros.
Merci beaucoup professeur Benyamina d'avoir répondu à nos questions. Congrès qui se tient jusqu'à vendredi au Palais Brongniart dans le 2e arrondissement de Paris. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise Priorité Santé. Demain, nous allons parler des accidents domestiques, prévenir, prendre en charge les risques du quotidien. On attend vos messages sur notre page Facebook et bien sûr vos questions, vos témoignages 33 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les bons chefs d'entreprise, bénéficiez de l'indemnité fin de carrière de vos employés sans préjudice avec Suno Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.